Évangile selon Marc, chapitre 12. Parabole de la vigne. Versets 1 à 12.
Lecture de la parole. Et il se mit à leur dire en parabole. Un homme planta une vigne et l'environna d'une clôture et y creusa une fosse pour un pressoir et y bâtit une tour. Et il la loua à des cultivateurs et s'en alla hors du pays. Et en la saison, il envoya un esclave aux cultivateurs pour recevoir des cultivateurs du fruit de la vigne. Mais eux, le prenant, le battirent et le renvoyèrent à vide. Et il leur envoya encore un autre esclave, et à celui-là ils lui meurtrirent la tête et le couvrirent d'outrage. Et il en envoya un autre, et celui-là ils le tuèrent, et plusieurs autres, battant les uns et tuant les autres. Ayant donc encore un unique fils bien-aimé, il le leur envoya lui aussi le dernier, disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces cultivateurs-là dirent entre eux, « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le. » Et l'héritage sera à nous. Et l'ayant pris, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr les cultivateurs et donnera la vigne à d'autres. Et n'avez-vous pas même lu cette écriture? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin. Celle-ci est de par le Seigneur et est merveilleuse devant nos yeux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, et ils craignaient la foule, car ils connurent qu'il avait dit cette parabole contre eux, et le laissant, ils s'en allèrent.
Lecture de l'étude. Dans cette parabole, Jésus place devant les Juifs toute la conduite d'Israël depuis son origine jusqu'au rejet du Seigneur. Israël a été plus d'une fois comparé à une vigne dans l'Ancien Testament, car la vigne de l'Éternel des armées est la maison d'Israël, et les hommes de Juda sont la plante de ses délices. Ésaïe 5, verset 7. Voir aussi Ésaïe 5, versets 1 à 6.
Je chanterai à mon bien-aimé un cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, et il la fossoya et en ôta les pierres, et la planta de ceps exquis. Et il bâtit une tour au milieu d'elle, et y tailla aussi un pressoir, et il s'attendait à ce qu'elle produirait de bons raisins. Et elle produisit des raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, a-t-elle produit des raisins sauvages? Et maintenant, je vous apprendrai ce que je ferai à ma vigne. J'ôterai sa haie, et elle sera broutée. J'abattrai sa clôture, et elle sera foulée aux pieds. Et je la réduirai en désert. Elle ne sera pas taillée, et elle ne sera pas sarclée, et les ronces et les épines monteront. Et je commanderai aux nuées qu'elles ne laissent pas tomber de pluie sur elle. Car la vigne de l'Éternel des armées est la maison d'Israël, et les hommes de Juda sont la plante de ses délices. Et il s'attendait au juste jugement, et voici l'effusion de sang, à la justice, et voici un cri.
Le psaume 80 en parle également. Dieu en attendait du fruit, et, comme nous l'avons vu avec le figuier, il n'en a point obtenu, sinon de mauvais. Ésaïe 5, verset 2. Ce que le Seigneur met en relief dans cette parabole, ce n'est pas la stérilité de la vigne, mais la culpabilité du peuple, et tout particulièrement des chefs, les cultivateurs, ceux qui portaient une responsabilité. Après avoir fait tout le nécessaire pour que sa vigne produisît du fruit, le maître de la vigne, Dieu, envoya ses esclaves, les prophètes, qui, durant des siècles, ont rappelé Israël à l'obéissance due à Jéhovah. Nous lisons en 2 Chroniques 36, verset 15, « Et l'Éternel, le Dieu de leur père, envoya vers eux par ses messagers, se levant de bonne heure et envoyant, car il avait compassion de son peuple et de sa demeure. Mais ils se moquaient des messagers de Dieu, et méprisaient ses paroles, et se raillaient de ses prophètes. Comme première conséquence de ce mépris, Dieu avait exilé les 10 tribus en Assyrie, et plus tard, il livra Juda à la captivité de Babylone, d'où il ramena un résidu. Le peuple qui habitait la Palestine au temps de Jésus et auquel Dieu présenta son propre fils. Ayant donc encore un unique fils bien-aimé, il le leur envoya, lui aussi, le dernier, disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces cultivateurs-là dirent entre eux « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous ». Et l'ayant pris, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne, versets 6 à 8. Il ne restait plus d'espoir, la patience de Dieu avait pris fin, le fils bien-aimé était le dernier essai, il n'y avait plus de ressources, le jugement devait suivre infailliblement. La présentation du fils unique de Dieu aurait dû toucher le cœur de ses cultivateurs. Mais leur haine pour Dieu et leur égoïsme leur ôtaient toute capacité de comprendre la bonté de Dieu et ce qui lui était dû. Non seulement ils refusent le fruit, mais ils veulent l'héritage et tuent l'héritier. L'injustice, le vol et le meurtre les caractérisent dès lors. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr les cultivateurs et donnera la vigne à d'autres, verset 9. 40 ans après la mort de Jésus, les Romains détruisirent Jérusalem et dispersèrent les Juifs parmi les nations. Comme peuple, Dieu les a abandonnés et s'est suscité un autre témoignage, l'Église, jusqu'au moment où Israël sera reçu à nouveau sur le pied de la grâce. C'est ce que veut dire « il donnera la vigne à d'autres ». Hélas! À son tour, l'Église a été infidèle, et le jugement de Dieu l'atteindra lorsque la vraie Église sera enlevée au ciel. Jésus cite aux Juifs une parole des Écritures pour leur montrer leur responsabilité à un autre point de vue. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin. Celle-ci est de par le Seigneur, et est merveilleuse devant nos yeux. Psaume 118, versets 22 et 23. L'incapacité de l'homme et les mauvaises dispositions de son cœur envers Dieu sont pleinement mises en lumière par ces passages et par la parabole que Jésus adressait aux conducteurs des Juifs. Dieu leur envoie son Fils unique bien-aimé. Il le tue après lui avoir refusé le fruit de sa vigne et avoir maltraité ses serviteurs. Dieu les considère comme des bâtisseurs qui devaient connaître la valeur de la pierre angulaire qu'ils appréciaient. Ils n'ont vu en elle aucune beauté. Ils n'ont pas compris que c'est sur elle que reposait tout l'édifice des bénédictions auxquelles ils prétendaient avoir part. Au commencement du ministère de Jésus, le ciel s'ouvre, et Dieu fait entendre sa voix disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » L'homme dit « Il n'a ni forme ni éclat. » Quand nous le voyons, il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Ésaïe 53, verset 2. Il était cependant le nourrisson de Dieu, l'objet de ses délices éternelles. Proverbe 8, verset 30.
J'étais alors à côté de lui, son nourrisson. J'étais ses délices tous les jours.
Il n'existe donc aucun point de contact entre les pensées de Dieu et celles des hommes. S'il y en avait, elles se seraient rencontrées au sujet de la personne du Fils de Dieu. C'est justement la présentation de Jésus qui a soumis le cœur de l'homme à la dernière épreuve. Aussi le Seigneur dit en Jean 15, verset 24, « Maintenant ils ont et vu, et haï, et moi et mon Père ». Il importe de retenir cette triste constatation qu'il n'y a aucun point de contact entre le cœur de l'homme et Dieu, car de nos jours, on enseigne plus que jamais que l'homme est susceptible d'être amélioré, qu'il y a en lui quelque chose de divin qui ne demande qu'à être cultivé, etc. Si cela était, Dieu l'aurait fait. Il n'eût pas été nécessaire qu'il envoyât son Fils. Jésus n'aurait pas dit à Nicodème « Il vous faut être né de nouveau ». Les chefs du peuple comprirent que Jésus parlait d'eux. Aussi, ils cherchèrent à se saisir de lui. Mais craignant la foule, ils le laissèrent et s'en allèrent. Triste détermination que celle de quitter le Seigneur, d'abandonner le seul moyen de salut, de bénédiction pour le temps et l'éternité, parce qu'ils ne répondaient pas à leurs propres pensées, et de choisir les ténèbres et la mort pour leur part éternelle. Qui voudrait, en présence de la lumière que le Seigneur a fait briller ici-bas, par sa venue, le laisser poursuivre les pensées des hommes et les inclinations de son propre cœur vers les choses périssables de ce monde, pour s'égarer dans le chemin de l'éternelle perdition? À qui payer le tribut, versets 13 à 17.
Lecture de la parole. Et il lui envoie quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre dans ses paroles. Et étant venus, ils lui disent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'embarrasses de personne. » Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu avec vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Paierons-nous ou ne paierons-nous pas? Et lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier que je le voie. » Et ils le lui apportèrent, et il leur dit, « De qui est cette image et cette inscription ? » Et ils lui dirent, « De César. » Et Jésus, répondant, leur dit, « Rendez les choses de César à César, et les choses de Dieu à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet.
Lecture de l'étude. Les chefs des Juifs, réduits au silence par Jésus, versets 27 à 33 du chapitre précédent, et atteints dans leur conscience par la parabole de la vigne, envoient quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre dans ses paroles. Et étant venus, ils lui disent, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'embarrasses de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu avec vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ou non ? Paierons-nous ou ne paierons-nous pas ? » Verset 14. La question leur paraissait habile, mais ils avaient affaire avec celui qui prend les sages dans leur ruse. Job 5, verset 13.
Il prend les sages dans leur ruse, et le conseil des astucieux est précipité.
Connaissant leur hypocrisie, il leur dit, « Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier que je le voie. » Et ils le lui apportèrent, et il leur dit, « De qui est cette image et cette inscription ?» Et ils lui dirent, « De César. » Et Jésus, répondant, leur dit, « Rendez les choses de César à César, et les choses de Dieu à Dieu. » Versets 15 à 17. Combien il est vrai que la sagesse des hommes est folie pour Dieu. Le moyen de trouver Jésus en défaut pouvait paraître habile, car les pharisiens et les hérodiens formaient deux classes de personnes aux principes fort différents. Les premiers, ennemis des Romains, travaillaient au maintien des traditions et de leur religion, tandis que les derniers, partisans des Romains, tenaient fort peu au judaïsme. En conséquence, quelques réponses que Jésus leur donna, ils estimaient le prendre en défaut, car, s'il était le Messie, ils ne pouvaient reconnaître César et ses droits sur le peuple de Dieu. Et s'il refusait de payer le tribut, il s'opposait à la domination romaine et les Hérodiens le condamnaient. Mais Jésus était celui dont il disait avec hypocrisie qu'il enseignait la voie de Dieu avec vérité. Par leur propre faute, les Juifs se trouvaient sous le joug des Romains. Ils devaient l'accepter et en porter les conséquences dans la soumission à l'autorité établie de Dieu sur eux. D'autre part, ils devaient reconnaître les droits de Dieu et lui rendre ce qui lui était dû. Rendre les choses de César à César et les choses de Dieu à Dieu. Dans leur mauvais état, ils se montraient aussi peu disposés à faire une chose que l'autre. L'enseignement divin demeure le même pour nous aujourd'hui. Nous avons à nous soumettre à l'autorité qui existe, car l'autorité est de Dieu, mais à rendre à Dieu ce qui lui est dû, savoir notre vie tout entière. Question des Sadducéens, versets 18 à 27.
Lecture de la parole. Et les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection viennent à lui, et ils l'interrogèrent disant, « Maître, Moïse nous a écrit que si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme et ne laisse pas d'enfant, son frère prenne sa femme et suscite de la postérité à son frère. Il y avait 7 frères, et le premier prit une femme et, en mourant, ne laissa pas de postérité. Et le second la prit et mourut, et lui non plus ne laissa pas de postérité. Et le troisième de même, et les 7 la prirent et ne laissèrent pas de postérité. La dernière de tous, la femme aussi, mourut. Dans la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eue pour femme ? Et Jésus répondant leur dit, « N'est-ce pas à cause de ceci que vous errez, c'est que vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Car, quand on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie ni on est donné en mariage, mais on est comme des anges dans les cieux. Et quant aux morts et à ce qu'ils ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au titre « Du buisson », comment Dieu lui parla, disant « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob ». Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes donc dans une grande erreur.
Lecture de l'étude. Les Sadducéens, une autre classe des Juifs, se présentent à Jésus, pensant le confondre avec une question touchant la résurrection, vérité à laquelle ils ne croyaient pas. Ils lui citent une ordonnance de Moïse, d'après laquelle, si un homme mourait sans enfant, son frère devait épouser la veuve, afin de lui susciter une postérité. Ces incrédules supposent le cas de 7 frères qui moururent les uns après les autres, sans avoir laissé de postérité, en ayant tous eu la même femme. Ils demandent à Jésus lequel des 7 sera le mari de cette femme à la résurrection, puisque les 7 l'ont eue. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas à cause de ceci que vous errez, c'est que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu ? Car, quand on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie, ni on est donné en mariage, mais on est comme des anges dans les cieux. Les relations naturelles font partie de la création où nous nous trouvons. Dès qu'on la quitte pour le ciel, les relations instituées pour la terre disparaissent. La résurrection mettra le croyant en possession d'un corps spirituel, corps qui conviendra à la vie divine qu'il possède déjà maintenant et en rapport avec la gloire céleste. Par conséquent, ce corps n'aura rien à faire avec les lois et les institutions de la première création. Dans ce sens, nous serons comme les anges qui sont dans les cieux, chose importante à retenir, car beaucoup de personnes pensent retrouver au ciel les relations de famille dont la mort les a privées ici-bas. Si elles ne se retrouvent pas, c'est parce que nous aurons infiniment mieux que cela. Nous connaîtrons ceux que nous n'avons pas connus ici-bas, et nous nous reconnaîtrons certainement pour jouir ensemble de Christ, de ses gloires et de l'amour infini de Dieu que nous comprenons si peu aujourd'hui, dans un bonheur parfait qui ne laissera de place pour aucune autre chose. Car les premières choses sont passées, Apocalypse 21, verset 4. Voilà donc ce qui en sera de ceux qui auront part à la première résurrection. Quant à la résurrection des morts, Jésus leur dit, « N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au titre « Du buisson », comment Dieu lui parla, disant, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes donc dans une grande erreur. » C'est 26-27. Lorsque Moïse se détourna pour voir le buisson ardent, du milieu duquel Dieu lui parlait, il y avait longtemps qu'Abraham, Isaac et Jacob étaient morts. Cependant, l'Éternel s'appelle leur Dieu. Exode 3, versets 1 à 6.
Et Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson à épines. Et il regarda, et voici le buisson était tout ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, « Je me détournerai, et je verrai cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il dit, « Me voici !» Et il dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu.
Il était à ce moment-là leur Dieu aussi bien que lorsqu'ils étaient sur la terre, preuve que pour Dieu il vivait, car il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Puis Dieu leur avait fait des promesses non encore accomplies. Il devait nécessairement ressusciter pour en jouir. Dans sa sagesse, Jésus leur cite cette preuve de la résurrection tirée des livres de Moïse, les seuls que les Sadducéens admettaient, car d'autres portions de l'Ancien Testament leur en auraient fourni. Nous voyons combien il faut peser toutes les expressions des Écritures pour en tirer les enseignements qu'elles contiennent. À première vue, nous n'aurions pas pensé qu'une des preuves de la résurrection se trouvât dans le fait que Dieu s'appelle le Dieu de personnes qui ne sont plus sur cette terre. Le plus grand des commandements, versets 28 à 34.
Lecture de la parole. Et l'un des scribes qui les avait ouïs disputer, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus lui répondit, « Le premier de tous les commandements est, « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. » Et le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit selon la vérité, car il y en a un, et il n'y en a point d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, et de toute son intelligence, et de toute son âme, et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger.
Lecture de l'étude. Un scribe, voyant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha de lui et lui demanda lequel était le plus grand de tous les commandements. Cette question n'avait pas le caractère insidieux des précédentes. Elle provenait du véritable intérêt que ce scribe prenait à la chose, d'autant plus que les pharisiens estimaient qu'il y avait plus de mérite à accomplir certains commandements que d'autres. Cependant, celui qui enfreignait un des commandements se rendait coupable à l'égard de tous, parce qu'il méconnaissait l'autorité de Dieu en désobéissant aux uns comme aux autres. Et Jésus lui répondit, « Le premier de tous les commandements est, « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci, versets 29 à 31. Jésus ne cite pas les 10 commandements, mais l'essence de la loi, ce qui en rendait impossible l'accomplissement, parce que l'amour était exigé, et le cœur de l'homme ne peut le produire sans la vie de Dieu. Jésus vint manifester l'amour pour Dieu et pour l'homme dont il s'était fait le prochain. Il dépassait infiniment ce que la loi exigeait. Jésus a aimé son prochain plus que lui-même, puisqu'il est mort pour le sauver. Une fois né de nouveau, le croyant a pour commandement la vie de Jésus tout entière, vie qui avait Dieu pour objet, car Jésus faisait toujours les choses qui plaisaient à son Père. Il vivait entièrement pour lui. La loi se résumait donc ainsi, n'avoir qu'un seul Dieu, l'aimer d'une manière absolue, et aimer son prochain comme soi-même. Si on aime Dieu, on lui obéira. Si l'on aime son prochain, on ne le tuera pas, on ne le volera pas, etc. L'apôtre Paul dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour donc est la somme de la loi. » Romains 13, verset 10. Le scribe répondit à Jésus « Bien. « Maître, tu as dit selon la vérité, car il y en a un, et il n'y en a point d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, et de toute son intelligence, et de toute son âme, et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu », versets 32 à 34. Ce scribe comprenait la pensée de Dieu dans la loi, et il n'était pas loin de la recevoir quant au royaume, en voyant en Jésus la parfaite expression de la pensée de Dieu. Dès lors, personne n'osait plus l'interroger. Toutes les classes des Juifs avaient passé devant lui et avaient eu la bouche fermée. Question de Jésus le concernant, versets 35 à 40.
Lecture de la parole. Et comme il enseignait dans le temple, Jésus répondit et dit, « Comment disent les scribes que le Christ est fils de David ? Car David lui-même a dit par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » Jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour marchepied de tes pieds. David lui-même donc l'appelle Seigneur. Et comment est-il son fils? Et la grande foule prenait plaisir à l'entendre. Et il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui se plaisent à se promener en longues robes et qui aiment les salutations dans les places publiques, et les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les repas, qui dévorent les maisons des veuves, et pour prétexte font de longues prières. Ceux-ci recevront une sentence plus sévère.
Lecture de l'étude. Maintenant, c'est au tour de Jésus de mettre à l'épreuve ses interrogateurs. Comme il était dans le temple, il dit « Comment disent les scribes que le Christ est le fils de David ? Car David lui-même a dit par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour marchepied de tes pieds. » David lui-même donc l'appelle Seigneur. Et comment est-il son fils ? Versets 35 à 37. Question embarrassante à laquelle nul n'a répondu. La généalogie donnée par Matthieu et par Luc prouve que Jésus était bien fils de David selon la chair. Mais le psaume 110, verset 1, cité par Jésus, le montre dans la gloire, Seigneur de tout, en attendant que tout lui soit soumis. Jésus allait être rejeté et prendre place comme fils de l'homme à la droite de Dieu, en attendant de faire valoir ses droits sur Israël et sur toute la terre. Le fait que Jésus était vu comme Seigneur de David impliquait son rejet, puisqu'il est assis à la droite de Dieu en attendant le jugement de ceux qui ne l'ont pas voulu comme roi. Ce Jésus méprisé était le Seigneur de David, quoique son fils selon la chair. Il est le Fils de Dieu et il est le Fils de l'homme, héritier de toutes choses. Personne ne pouvait lui répondre, mais la foule prenait plaisir à l'entendre. Nous aimons à espérer que de ces gens qui l'admiraient et l'écoutaient, un grand nombre eurent le cœur préparé, par les paroles de Jésus, à prêter l'oreille au témoignage rendu par les disciples après l'ascension de Christ, et que les 3000 personnes converties à la prédication de Pierre en faisaient partie. Dans ce qui suit, versets 38 à 40, Jésus démasque l'hypocrisie des scribes à la recherche des honneurs de ce monde et qui usaient de leur situation religieuse en vue de leur profit matériel. Ils aimaient se faire voir. Ils recherchaient les salutations dans les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas. Ils dévoraient les maisons des veuves et, pour se couvrir, ils offraient de longues prières. Comme beaucoup le firent plus tard dans l'Église, ils estimaient que la piété est une source de gain, péché qui n'a que trop caractérisé certains clergés, mais bien éloigné de l'esprit du serviteur parfait venu ici-bas dans le renoncement et le dévouement absolu, lui qui a vécu dans la pauvreté pour nous, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. 1 Timothée 6, verset 5.
Les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain.
2 Corinthiens 8, verset 9.
Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.
Jacques dit en parlant du service religieux, « Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père et celui-ci, de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde. » Jacques 1, verset 27. L'épître de la veuve, versets 41 à 44.
Lecture de la parole. Et Jésus, étant assis vis-à-vis du trésor du temple, regardait comment la foule jetait de la monnaie au trésor. Et plusieurs riches y jetaient beaucoup. Et une pauvre veuve vint et y jeta 2 pites, qui font un cadran. Et ayant appelé ses disciples, il leur dit, « En vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a plus jeté au trésor que tous ceux qui y ont mis. » Car tous y ont mis de leur superflu, mais celle-ci y a mis de son indigence tout ce qu'elle avait toute sa subsistance.
Lecture de l'étude. En contraste avec la conduite de ses scribes, Jésus observait une pauvre veuve au milieu de tous ceux qui jetaient de l'argent au trésor du temple. Des riches y mettaient beaucoup, mais cette veuve y jeta 2 pites, petites pièces de cuivre qui ne valaient guère plus d'un sou de notre monnaie. Comme valeur matérielle, c'était peu de chose. Mais selon l'estimation du Seigneur, c'est elle qui avait mis le plus. En vérité, dit Jésus, je vous dis que cette pauvre veuve a plus jeté au trésor que tous ceux qui y ont mis, car tous y ont mis de leur superflu, mais celle-ci y a mis de son indigence tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance, versets 43-44. Cette appréciation du Seigneur constitue un précieux encouragement pour ceux qui ne peuvent pas donner beaucoup. Si les riches avaient donné autant que cette femme, ils auraient donné tout leur avoir. On voit au commencement de l'assemblée, dans les Actes des apôtres, que les choses se passaient ainsi sous la première et puissante influence de l'Esprit de Dieu. Acte 4, versets 34-35.
Car il n'y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres, et il était distribué à chacun selon que l'un ou l'autre pouvait en avoir besoin.
Les choses ont vite changé, mais si l'amour de Dieu remplit nos cœurs et les gouverne, rien ne sera trop pour le Seigneur. Il nous enseigne ce que nous pourrons faire pour lui, et nous sommes certains que jamais il ne nous sera redevable. Au reste, dans quelque position que nous nous trouvions, nous ne pouvons offrir à Dieu que ce qu'il nous a donné, et dans sa grande bonté, il veut encore nous récompenser pour la manière dont nous aurons été les dispensateurs de ses biens. Puissions-nous mieux comprendre que ce que nous devons au Seigneur, ce ne sont pas seulement des dons, mais nous-mêmes. Nous sommes exhortés à offrir nos corps en sacrifice vivant à Dieu.
Et à mettre nos vies pour nos frères. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent.
1 Jean 3, versets 16 et 17.
Par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous, et nous, nous devons laisser nos vies pour les frères. Mais celui qui a les biens de ce monde, et qui voit son frère dans le besoin, et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui?
Dieu apprécie tout à la mesure du sanctuaire, et le manifestera au jour de Christ. En attendant, souvenons-nous que le Seigneur regarde, aujourd'hui comme alors, à la manière dont nous mettons nos biens et nos corps à sa disposition.